clair, très fort, souvent que c'est plus dangereux, plus pernicieux que l'agnosticisme et le positivisme. C'est dans la retraite qu'il a prêché au Vatican, qui était vu, la première conférence. Ce que je désirais, c'est cette intervention de Mgr Bruno Lambert-Philippe, qui nous aide à bien poser ce problème de la parole de Dieu, des sens de l'écriture. Vous aurez quelque chose dans le courant de l'année, plus particulier, ce sont les Victorins, Berne qui a travaillé avec le père Patrice, sur une question, on va en parler, surtout dans le Saint-État. Voilà. On part là-dessus.
Pour que tout soit bien, combien c'est un des problèmes sûrement les plus importants, étant donné que toute la théologie se fonde sur la parole de Dieu. Et quand on arrive à certaines positions actuelles, on voit très bien comment, de fait, il peut plus y avoir de théologie. Parce qu'il n'y a plus de pensée. C'est ça qui me frappe le plus, moi. Il y a une espèce de destruction du mystère de la parole de Dieu. Alors, il me semble, pour que ce soit important, pour qu'on voit bien qu'on est un peu le status christianis, comme vous disiez avant. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, pour beaucoup, la parole de Dieu? Ensuite, Seigneur est d'accord, je montrerai qu'il y a derrière une conception philosophique de la parole. Et je crois que, comme aujourd'hui constamment, toutes ces erreurs théologiques dépendent d'erreurs philosophiques. On ne sait plus ce que c'est que la pensée humaine, l'intelligence. On reste à un niveau très inférieur au niveau de l'intelligence. Quelques jours, je voyais à Paris quelqu'un que je connais bien, c'est un médecin, et qui me disait, aujourd'hui, l'intelligence, on ne peut plus en parler.
Je dis pourquoi ?
On ne peut plus en parler. Parce que l'intelligence, pour nous, c'est uniquement une question de neurones. Je dis, mais le mot intelligence a existé avant que les savants et les biologistes disent. Et moi, je revendique qu'on doit garder la signification de l'intelligence telle qu'elle a existé depuis longtemps. Vous voyez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que beaucoup de savants positivistes emploient des expressions philosophiques pour leur donner un sens totalement différent. Dans ce sens-là, je crois qu'on vit un peu la tour de Babel. Conséquences de la tour de Babel. Des mots classiques comme intellectus, nous, logos, qui ont une signification extrêmement précise, d'une certaine manière, dans toute la grande tradition théologique. On s'en empare pour en donner une signification tout autre. Et à partir de ce moment-là, pratiquement, on ne peut plus voir ce que c'est que l'intelligence humaine dans sa structure profonde, dans ses exigences profondes. Et le mystère de la parole de Dieu ne peut plus être regardé de l'intérieur. Il me semble, c'est comme ça que je le regarde, parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'exégèse. J'ai beaucoup d'amis exégètes. pu avoir tout aujourd'hui. On est dans le temps quand on faisait sa licence philosophique, c'était De Omni Re Chimeli. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. C'est-à-dire de toutes choses intelligibles et qui peuvent être scientifiques. C'est impossible. Le progrès de la science exige le philosophe d'être plus philosophe. Et je dirais cette exégèse moderne, qui, comme dit souvent le Perspic, n'est plus de l'exégèse, puisqu'elle n'est plus du tout dans la signification de l'exégèse. L'exégète respecte la parole de Dieu, tandis qu'eux ne la respectent plus. Ils ont leur idée a priori, et leur idée a priori est philosophique, et ils mesurent la parole de Dieu avec ses idées a priori. Donc ce n'est plus de l'exégèse. Mais c'est comme si un menuisier ne respectait plus le bois qu'il travaille. C'est exactement ça. Alors ne le respectons plus, mais c'est plus un menuisier. L'exégète doit respecter le donné révélé. Et respectant le donné révélé, il se met au service pour que nous comprenions mieux ce donné révélé. Sa force. Alors on pense toujours à cette parole du psaume, les hommes ont diminué la vérité. Je crois qu'on est devant cela, et c'est sûrement le problème le plus important aujourd'hui au point de vue de la théologie. C'est évidemment un problème critique, on dirait, de théologie critique. Ce qu'on dit avant de théologie fondamentale. Je crois que c'est là les exégètes qui restent encore de vrais exégètes, c'est-à-dire qui ont encore la foi, et les théologiens qui ont encore un sens philosophique devraient, je crois, travailler ce problème d'une façon très particulière parce que c'est fondamental. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait un travail commun entre certains exégètes, théologiens, philosophes, qu'on ne peut pas parler de la parole de Dieu n'importe comment.
Je suis tout à fait d'accord. C'est un travail d'équipe et non pas un travail solitaire. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment où il faut faire ce travail d'équipe. Parce que je ne me présente pas comme un exégète, un peu, mais pas beaucoup. Enfin, les exégètes ne sont pas suffisamment armés au point de vue philosophique. Non pas que ce soit nul, non, il ne faut pas dire ça. Mais ils ne sont pas suffisamment armés au point de vue philosophique pour pouvoir justement bien comprendre la parole de Dieu. Et il y a un problème à la base, comme vous venez de le dire, il y a un problème philosophique qu'il faut véritablement déplier et expliquer. N'est-ce pas ? Je le crois.
Ah oui, tout à fait. Certainement. Même quelqu'un comme le père Dreyfus, que je connais bien, au fond, le père Dreyfus,
oui.
il a fait sa philosophie.
Oui.
Et après, il ne l'a plus fait.
Et oui.
Le père Concard, il est comme ça. Oui. On a fait la philosophie, mais la philosophie, c'est quelque chose d'actuel.
Et puis, je crois qu'il y a deux générations. L'exégète, il y a une génération, c'est un peu ce que j'ai connu, si vous voulez, dans les études, tout de suite après. Souvent, on ne parle pas de Frilou, de Perspic, ou des autres, mais souvent, c'est vrai qu'on sentait une immense bonne volonté, mais manquer cette base philosophique. Aujourd'hui, moi, je crois que ça va plus loin. C'est comme les exégètes, comme disait le père Philippe, avec une idée a priori. Qui ne respecte plus la parole de Dieu, qui la détruit,
la trafique, la trafique, oui. C'est la sainte.
Une solution pour
essayer de le bois. Un menuisier, il respecte le bois, quoi.
Mais pour qui, il n'y a plus de bois.
La parole de Dieu est volatilisée dans leur cité a priori. C'est ça qui me. Qui vous fait mal, parce que c'est la destruction même de la foi. Et ça, ça commençait déjà dans le temps. Je me souviens très bien. Un de mes frères qui était dominicain, frère selon la chair et le sang, qui est mort du reste de la guerre, je me souviens qu'au moment des études, on voulait l'orienter vers les églises. Il est venu me trouver. Il m'a dit, moi je ne veux pas. Parce que je ne veux pas perdre la foi. Vous l'êtes déjà à l'école de Jérusalem. On sentait déjà une orientation très nette qui faisait que l'exégète n'était plus serviteur de la parole de Dieu. Et je crois que tout est là. C'est comme le théologien qui doit être serviteur. Le Saint-Père actuel, ça m'a beaucoup frappé avec notre père Barthélemy à Fribourg. Parce qu'à un moment donné, Perspic qui était invité aux réunions régulières, bibliques, à Rome, c'était le père Barthélemy. Alors la première fois que le père Barthélemy est allé, je lui demandais au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Oh Dieu, c'est comme tout le temps, vous savez, ces réunions. Oui, mais je dis, mais qu'est-ce qu'a dit le pape? C'est ça qui m'intéresse. Oh, il n'a rien dit. Il est arrivé en blaguant. On voit très bien. Il est arrivé en blaguant devant ces savants d'exégèse moderne. Il leur a dit « Insufficienter ».« Insufficienter ». Si je passe un examen avec vous, ce serait « Insufficienter ». Et puis après, le père Barthélemy m'a dit, il a sorti un papier. C'était nettement pas lui. Nous avons cité sa leçon. Ça m'étonnait de la part du pape. Alors, dès que la documentation catholique est parue, je l'ai regardé. Et c'était pas du tout. C'était textuellement du pape. C'était très net. Et il leur a dit à tous, vous n'êtes pas assez serviteurs. Il a touché juste. Vous n'êtes pas assez serviteurs. Vous êtes des serviteurs de la parole de Dieu et des serviteurs de l'Église. Ce n'est pas vous qui êtes la norme de la foi. C'est le magistère actuel de l'Église. Bon, il touchait, moi, je crois, quelque chose de très très juste. Parce que c'est ça le danger. C'est que le serviteur veut devenir le maître. Et il veut trafiquant la parole de Dieu, donner la mesure. Je donne un autre exemple. C'était passé à Châteauneuf. Ah oui. Oh, bon, je vais faire même à côté de vous. C'est pour vous montrer l'état dans lequel on est actuellement. Moi, j'ai prêché de nombreuses années les retraites des prêtres à Châteauneuf. Un beau jour, c'était les fins du reste. Les dernières années, quoi, les dernières années, c'était les 10 dernières années. Mais ça fait déjà il y a 20 ans. J'avais, dans la prédication, pris ce texte que j'aime beaucoup de Saint Jean, où Jésus dit à la Samaritaine, il faut des adorateurs en esprit et en vérité. J'avais insisté beaucoup sur ce mystère de l'adoration en esprit et en vérité, en m'appuyant sur la parole de Jésus. Immédiatement après la conférence, un de ces prêtres est bondi chez moi. n'avez pas le droit de dire ça. Quelle hérésie, j'ai dit. Vous avez dit que Jésus disait qu'il fallait des adorateurs en esprit, en vérité. J'ai dit, mais oui, et je le répète, et je le répéterai jusqu'au bout. Jésus demande qu'il faut des adorateurs en esprit, en vérité. C'est pas Jésus qui dit ça, c'est Jean. Alors, dit, pardon, Jean cite Jésus. Et j'avais lu juste avant, dans la documentation catholique de ce temps, c'était du temps de Paul VI, un discours de Paul VI, où Paul VI reprenait, comme dit le divin maître, il faut des adorateurs en esprit en vérité. Je dis, regardez la documentation. Oh, c'est Paul VI, c'est pas un exégète. Mais il est pas. Oh non, c'est pas ça. Alors à ce moment-là, j'étais méchant. Dis, monsieur l'abbé, quelle est la norme de votre foi? Il n'a pas su le dire. Il dit, et vous enseignez, et vous prêchez, et vous ne savez pas la norme de votre foi. Eh bien, je le dis, la norme de ma foi, c'est pas des conclusions de certains exégètes qui disent que toutes ces paroles sont répétées et ne sont plus des paroles de Jésus, et que c'est tout simplement Jean qui les donne comme le fruit de sa méditation. Vous n'avez pas le droit de dire ça, au point de vue de la foi. Quand vous faites des recherches, très bien, mais quand vous enseignez le peuple de Dieu, et vous enseignez des croyants. Alors il est tout petit, tout parti, tout penaud. Alors j'ai été trouvé le père. Fini après, je lui ai dit, mon père, vous avez assisté à la conférence. Est-ce que vous avez quelque chose à redire à cette conférence? Il ne dit pas du tout. Alors je lui ai dit, voilà ce qu'on m'a dit. Alors le père Fini m'a dit, si on vous demande d'être ici, c'est pour que vous continuez à donner vraiment ce que vous donnez, sans vous inquiéter. Mais au fond, c'est le problème constant devant lequel on se trouve aujourd'hui.
Mais plus tard, je ne sais pas, on dit encore ces gens.
C'est ça qu'il voulait. Bon, alors je crois, vous pourriez montrer un peu les quelques aspects aujourd'hui sur ce mystère de la parole de Dieu. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu pour certains exégètes ultimes qui justement ramènent tout? Oui, ramène toutes les paroles des évangiles, le produit de... Est-ce que vous pourriez montrer un peu ce que représente ce mystère de la parole de Dieu de façon traditionnelle, et puis montrer comment il y a eu ce glissement? On est arrivé actuellement à ce modernisme, parce que c'est une
laïcisation. Une sorte de laïcisation de la parole de Dieu qui est intervenue peu à peu, qui est le fruit d'ailleurs de tout un climat de laïcisation. Ce n'est pas seulement purement intellectuel, hein. Il y a cela, il y a cet aspect intellectuel, mais aussi il y a tout ce climat, hein, parce que ça dépasse de beaucoup l'aspect intellectuel. Alors, peu à peu, eh bien, c'est une laïcisation, c'est une parole qui est nivelée au niveau des autres paroles. Mais comment on en est arrivé là? Je n'ai pas vraiment réfléchi comment on en est arrivé là, mais il y a certainement plusieurs causes. Hein, plusieurs causes. La première cause, c'est, à mon avis, c'est qu'on n'a jamais bien entrevu d'une façon très forte le point de départ de la parole de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui parle. C'est cela qui est le point de départ.
C'est ce que nous disons dans le credo.
Dans le credo. Et
Et s'il n'y a pas ce point de départ, eh bien, et qu'il soit très net, très précis, hein, très fort, eh bien, automatiquement, alors à ce moment-là, on va trafiquer la parole de Dieu. C'est ça. Ça, c'est d'abord ce point qui me paraît très important. Dieu qui parle. Qui parle, bien sûr, à travers les personnes, mais c'est lui qui parle. C'est pas seulement un soutien, comme le pape parlant dans une, faisant une encyclique, ou bien dans un récit comme l'imitation de Jésus-Christ, c'est bien d'autres choses. Hein? C'est Dieu qui parle. Et c'est cela qui est important.
Et ça correspond au mystère de la foi qui reçoit cette parole. Et quand ça devient précise, la raison formelle de la foi, c'est la vérité première se révélant. Parce qu'il y a une répercussion immédiate sur le mystère de la foi. Les deux se tiennent. On ne peut pas modifier le mystère de la parole de Dieu sans supprimer par le fait même le mystère de la foi. On se nourrit de la parole de Dieu.
Alors, après cette source qui doit être bien envisagée et qui doit être très claire pour nous, après, il y a les différents chemins par lesquels, justement, la parole de Dieu, c'est-à-dire cet immense fleuve, hein, nous est parvenue et nous parvient aujourd'hui. Alors, je crois qu'il serait bon d'analyser ces fleuves, hein, oui, n'est-ce pas ? Et comment il y a eu déviation ou bien sclérose, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose là qui se passe. Mais je crois que pour nous, il est bon de suivre ce fleuve qui nous parvient.
N'est-il pas eu, ça m'a toujours impressionné cela. J'avais beaucoup réfléchi avec le père de Haut, mon oncle, ce qui me permettait d'avoir une génération antérieure. Et pour le père de Haut, c'était assez net. C'est que de fait, à la fin du siècle précédent et au début de ce siècle, on a été en présence de ce grand mouvement moderniste qui faisait que, de fait, le point de vue de la science intervenait directement, les conclusions de la science intervenaient directement dans le mystère de la foi. À la place de dire que la science conditionne tout un climat, un milieu dans lequel on est, on avait la tentation de voir que les conclusions scientifiques déterminaient. La condamnation de Galilée, je dis ça parce que ça revient aujourd'hui, et à Fribourg, j'avais un Italien qui était biologiste, M. Giovannini, qui a beaucoup étudié l'histoire de Galilée. Et il m'a dit, si l'Église a condamné Galilée, ce n'est pas du tout les conclusions scientifiques de Galilée. C'est que Galilée appliquait directement les conclusions scientifiques à une lecture de l'écriture, et en disant que le progrès des sciences était de nous obliger d'avoir une lecture nouvelle de l'écriture. Alors ça, c'était le modernisme. En face de ce modernisme est née l'école biblique de Jérusalem, qui est née à partir de là. Et le père Thoum disait toujours, cette école est née dans une attitude apologétique. Et puis progressivement, cette attitude apologétique est devenue une attitude théologique, ce qui est au fond très mauvais. Parce que dans une attitude apologétique, on regarde l'ennemi qu'on veut montrer, les erreurs, le modernisme. Mais la théologie va bien plus loin que le modernisme. Il oblige de tout reprendre à la source. Et au fond, c'est ce qui n'a pas existé. L'école biblique de Jérusalem avec le père Lagrange a sûrement fait quelque chose de très bon, parce qu'elle a répondu. Il aurait fallu à ce moment-là qu'il y ait une vraie théologie de la parole de Dieu. Et moi, c'est toujours ce qui m'a semblé, qu'il n'existait pas de vraie théologie de la parole de Dieu à partir de cette attitude. Et alors, ça a glissé tout le temps, au point de vue apologétique. On n'a pas une remontée à la source. Parce qu'on essaie, dans une attitude apologétique, de répondre. un danger. Il fallait le faire. C'était nécessaire. Le père Lagrange l'a fait. Et le père Thoreau, qui avait très bien connu le père Lagrange, me disait, le père Lagrange n'est pas un vrai théologien. Il était un excellent exégète qui a répondu, parce qu'il avait la foi. Mais il n'était pas un vrai théologien. Il a fallu, à partir de ce moment-là, avec un peu plus de recul, donner une théologie de la parole de Dieu. Et c'est ce que je me demande. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on devrait donner aujourd'hui? Une théologie de la parole de Dieu, en reprenant une philosophie saine, critique de la parole humaine, et montrer comment Dieu, se servant de la parole humaine, par les prophètes, et surtout par Jésus, exige de nous d'avoir une théologie de la parole de Dieu. Parce que l'erreur, aujourd'hui, elle est intellectuelle, dans sa fine pointe. Elle est à ce niveau-là. Et alors, les théologiens n'osent plus. Parce que les théologiens d'aujourd'hui ne sont plus assez philosophes. C'est en fait, on ne sait plus ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'école des Heidegger. On se met à l'école des philosophes modernes. Et les philosophes modernes ont une philosophie de la parole humaine qui ne peut plus être assumée par la foi. C'est ça qui me semble être très important à voir. Il me semble. Alors, on peut peut-être développer ça.
J'avais pensé, moi, poser une certaine question, un problème. Je me donne un peu sommairement, mais on retrouvera. Mais je me disais, des points névralgiques, par l'importance de démontrer qu'est-ce que le sens du père. C'est pas le sens historique, aujourd'hui. Qu'est-ce que le sens du père précise. Un des points aussi, il me paraît très calme, c'est ce que le frère a bien souligné dans l'article, à mon point de vue, c'est l'immortalité spirituelle, c'est le texte de Pie XII qui a eu une influence énorme, à mon point de vue, pas toujours saine, je ne mets pas en cause de sa peur, mais.
L'interprétation.
Je me souviens que. Tout ce qui était lecture nourrissante, spirituelle, plus riche la parole de Dieu était complètement rejeté par toute une génération de prêtres ayant été formés à Rome à ce moment-là, ayant été formés au niveau exégétique, nous rabattant toujours sur Pie XII, deux sens littéral seul, hein, c'est celui qu'on peut tirer argument. Mais la notion qu'ils avaient de sens littéral était déjà terriblement réduite.
Je crois que pour vraiment comprendre le sens littéral, il faut comprendre en premier lieu quel est le sens littéral, quel est le sens de la parole humaine. Et ensuite, quelle est la signification de la parole de Dieu.
Une chose qui me paraît aussi importante pour bien faire saisir ça, c'est de montrer dans la lumière de l'incarnation le lien dans le Christ, le Verbe de Dieu, et puis l'enveloppe humaine, cette nature humaine qu'il a assumée. Je crois qu'en creusant ça, ça aiderait aussi à faire sortir, parce que finalement, de Dieu, il n'est plus présent. Il n'y a plus de l'enveloppe.
C'est le début de l'épître aux Hébreux. Je crois tellement important.
Oui, c'est ça.
C'est qu'au fond, ce que vous disiez tout à l'heure, on banalise la parole de Dieu, on banalise la parole de Jésus en la ramenant prophète, en disant c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. La position de Chouraki, par exemple, d'accord, qui est très nette et qui a une grosse influence.
Bien sûr. Et vous vous souvenez, c'était le temps, j'étais à Fribourg, j'ai dit vous posez
par l'auteur d'exégèse, avec tout un laïus disant, bon, pour Saint-Maurice, la spiritualité, ce sont les martyrs, ce n'est pas les chanoines, mais c'est les martyrs d'abord. C'est les chanoines gardiens, sont trop beaux de martyrs. Alors, le martyr, c'était, je ne caricature en rien de la structure d'exposé, le martyr nous renvoie à la croix nous renvoie au service souffrant, et puis on aboutissait au code d'Amourabi. Si c'est le code d'Amourabi qui éclaire tout, et l'Ancien Testament et la croix, c'est quand même significatif sur ce que peut-être vous avez déjà dit.
C'était la conférence du père, maintenant il est dans le ciel. Alors il est sûrement d'accord avec nous. Cher père Benoît, qui faisait une conférence aux étudiants ce soir, j'étais pas avec père Dreyfus, j'y étais. Père Dreyfus est venu me raconter comment ça s'était passé. Il faisait ça avec une très bonne intention pour montrer aux étudiants qu'il était désir d'apprendre l'hébreu. Bon, je suis tout à fait d'accord. Et alors il disait, vous ne pouvez rien comprendre au Nouveau Testament si vous ne regardez l'Ancien. Vous ne pourrez rien comprendre à l'Ancien Testament si vous ne savez pas l'hébreu. Ça sera bien ça. Alors, Dreyfus, dans le fond du peuple qui existait, a dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que des quantités de gens qui savent l'hébreu n'ont pas la foi? Alors, toute la conférence était à reprendre. Ah, oh, mais c'est évident, c'est la foi dans le Christ. Ah, oh, mais il faut peut-être le dire. Parce que c'est pas l'hébreu qui nous donne la foi. Donc, c'est la foi dans le Christ qui commande tout pour nous.
Autre chose.
Oui. Alors, pardon, mais je pense que là, on a déjà. Alors, vous disiez au niveau philosophique, on fait soquer déjà la parole humaine avec tout le point de vue analogique, et puis ensuite parole humaine et parole divine, et à partir de là, on fait ce qu'il y a d'abord la parole de Dieu. On ne réduise pas à l'enveloppe. Et puis, il y a une question moi, qui je me suis aussi posé très fort. C'est dans l'article du Père Gabriel, à propos de l'encyclique, une mise au clair du sens littéral relève du même travail de lecture que pour n'importe quel autre écrit. Mais l'interprétation doit être complétée au sens fort de ce mot par celle des pères et du magistère. Je pense que là, il y a des choses qui...
Oui, il faut préciser. Il faut préciser, sûrement.
Il manque quelque chose.
Oui, il manque un texte.
C'est... Autrement dit, c'est la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a...
La parole de Dieu, on doit comprendre la parole d'une façon analogique. Et dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, on est devant un mystère. Et ce mystère, le théologien doit préciser le quomodonensit. Comment il n'est pas justement la parole humaine. Et donc, si même la parole humaine ne peut pas se ramener au contexte historique, je ne peux pas ramener la parole métaphysique d'un Aristote au contexte historique. Alors, tout vient de là. Et a fortiori, la parole divine. La parole divine a quelque chose d'éternel, au-delà de tous les contextes historiques. Ma foi est substantiellement la même que celle de Marie. La foi de Marie était substantiellement la même que celle d'Abraham, mais elle avait une plénitude qui la différenciait de celle d'Abraham. Et Marie est la première dans la foi. Donc elle est pour nous modèle. Et théologiquement, je dois revenir tout le temps à celle qui est bienheureuse dans la foi.
en elle que la foi est fructifiée. Et là, nous touchons là tout de suite le problème de la parole de Dieu et de la tradition. Et je crois que c'est voulu, c'est ce que je dis souvent, quand même, Jésus aurait pu écrire le journal de route. Tous les soirs, Jésus aurait pu écrire ce qu'il avait fait dans sa journée. Il aurait demandé à Pierre de signer à Jacques et Jean. Et on aurait l'évangile de Jésus-Christ, écrit par Jésus-Christ. Ce n'est pas un oubli de la part du Christ. C'est une volonté expresse de n'avoir rien écrit. Pourquoi ? Pour laisser cette complémentarité au mystère de la tradition. Pierre, le jour de la Pentecôte, n'a pas nommé une commission pour écrire la parole de Dieu et écrire l'évangile des douze. Il y a quand même là une volonté de Dieu qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est une parole de père, d'ami, d'époux, qui implique une tradition. Je prends toujours ce petit exemple parce que je l'ai vécu pendant la première guerre mondiale. Parce que j'ai quand même subi les deux guerres. J'étais pas très grand, la première. Mais je l'ai vécu familièrement. Puisque mon père est parti. Quand il avait 9 enfants, la 10e est née au mois de janvier. Et mon père est parti au mois d'août. Et ma mère, parce qu'on était dans le nord, donc on était très vite envahis, ma mère écrivait tous les jours le journal familial pour mon père. Et c'était très beau de voir ce journal familial pour mon père quand il reviendrait, pour qu'il comprenne comment ça s'est passé. Et moi, ça m'a beaucoup éclairé de voir comment une mère peut garder les secrets de la famille pour les communiquer à celui qui était absent. Et on lisait après, ensuite, ce journal de famille. C'était très riche. Et je pensais toujours à ce que représente une tradition familiale. L'Église, c'est le peuple, c'est la famille. Les deux. Et les deux analogies se corrigent. Et la parole de Jésus est une parole d'un père, d'un ami, d'un époux. Il y a toute une tradition qui enveloppe cette parole. C'est sous l'influence protestante que je crois très forte, qui n'accepte pas le mystère de la tradition. Et l'ersatz de la tradition, c'était l'herméneutique. Ça me semble très bien.
De ce point de vue, je vous permets de dire, Dei Verbum, relisez les Hibernium avec ce que nous venons de dire. Vous cette parole du Père, de la vie, de tout. Dieu converse avec nous comme un ami, et puis ensuite avec la famille. Est-ce que ceci a été voulu, ça a été voulu pour préparer un travail sur la parole de Dieu c'était voulu pour nous tous, alors il y a divers niveaux. Peut-être qu'avant de poursuivre, de louer tout ce qu'on a déjà évoqué, s'il y a des questions qui viennent, soit des plus aînés, qui ont besoin de préciser certaines choses, soit des plus jeunes, pour.
Oh, après. Faut pas hésiter, on est en famille, hein. C'est pas un gros magistrat.
En entendant tout ça, une question me vient, c'est complètement clair d'ailleurs, est-ce que le fond du problème n'est pas que la parole de Dieu est une personne avant d'être un sens dans le sens de notre manière, hein, pour en dire, c'est d'abord une personne, comme on voit dans la Genèse, Dieu dit, comme le verbe de Dieu, donc la parole de Dieu, si elle est d'abord une personne avant d'être un sens, on comprend que même quelqu'un de très peu cultivé puisse y adhérer. On n'a pas besoin de connaître l'hébreu pour la connaître intimement, et que d'autre part on puisse l'étudier comme sens, mais en référence avec le fait qu'elle est d'abord une personne. Posez donc la question en ces termes.
Là, tout n'est pas attention. Je suis tout à fait d'accord. Mystiquement, notre voix derrière une personne. Et comme ici, on essaie de comprendre le problème d'une véritable exégèse.
Ah oui, d'accord. Okay, non,
mais,
d'accord.
Là, c'est ça. Je crois qu'il y a des niveaux différents, vous voyez. En définitive, la parole de Dieu, en définitive, de façon ultime, elle est une personne. Et c'est l'amour. Et pour moi, c'est pour ça que toute la théologie doit s'achever dans une théologie mystique. Mais une théologie mystique ne peut rester une théologie que si une théologie scientifique. Oui.
Et bien après,
alors est-ce qu'on pourrait préciser donc
oui,
justement ce lien entre parole de Dieu, parole humaine.
Oui, je pense qu'on va le faire. Justement, c'est au frère. Hein.
Tout à fait.
Justement, un des points.
Ma question, c'est justement parole de Dieu, parole divine. Si Dieu a utilisé une parole humaine pour communiquer une parole divine, est-ce que c'est un lien direct avec l'incarnation et la création aussi?
Par rapport à l'incarnation, c'est comme pour le mystère d'église. Ça, on essaiera de discuter tout à l'heure. Hein, comprendre, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Et aujourd'hui, vous savez bien comment on ramène et au fond, pour qu'il soit plus proche de nous, et on ne respecte plus la transcendance, on ne respecte plus le vrai Dieu, le vrai Dieu, mes chers. Nous voyons tous les conditionnements humains. Je pense que c'est important de travailler cette analogie aussi. Et peut-être prendre un autre niveau, je pensais quand vous parliez faire, on pourrait élargir, voir l'Église, hein, ce que vous disiez sur le point de vue de l'apologétique, hein, le regard sur l'Église dans cette période apologétique. Et puis, ce que disait donc Léa, attention, ça ne fait pas. On défend la place forte, hein, dans une telle perspective, mais ça ne fera jamais pénétrer au cœur de la cité. Hein, pas, dans deux points, nous avons nous a fait pénétrer au cœur de la cité, c'est l'Église distincte, l'Église communion. Alors, prendre ces analogies pour comprendre ce que c'est passé par rapport à la parole de Dieu dans la perspective apologétique et puis les conséquences de ça. Vous voyez, on retourne la liste pour l'Église, c'est le regard purement social, politique, par de statistique. On a toujours une même attitude dans le problème.
Est-ce qu'on pourrait aussi approfondir un tout petit peu le lien qui existe entre le magistère, l'Église, les serviteurs et les gardiens de la parole? Approfondir.
Oui, c'est ça, c'est le texte du passage. Oui, quand on prendra les divers aspects,
je crois qu'on prendra à partir de la philosophie.
servait de la philosophie pour elle-même, pour attaquer l'adversaire, c'est le croyant qui est un apologète. Vous voyez, c'est au fond la manière différente dont le croyant se sert de la part de l'intelligence. En gros, je crois qu'on pourrait peut-être, parce que pour moi c'est le grand tournant, ces deux conceptions qu'on a de la parole humaine, l'une traditionnelle, l'autre moderne, en gros. Et pratiquement, je vois que constamment, on accepte cette nouvelle conception de la parole humaine sans en voir toutes les conséquences, et sans voir que c'est quand même un certain positivisme qui s'est introduit dans la philosophie. Alors, en quelques mots, du moins, quelques mots, ramenons la théorie de saint Thomas, je parle de saint Thomas, mais qui était acceptée en gros, pratiquement par tous les théologiens, avec des nuances particulières, c'est évident, mais pour saint Thomas, qu'est-ce que c'est que la parole humaine et qu'est-ce que c'est que la parole divine? Je dis saint Thomas parce que c'est quand même un théologien admis par l'Église et auquel on pourrait faire référence. Pour saint Thomas, la parole humaine, à la suite de la philosophie d'Aristote, la parole humaine renvoie en premier lieu à une pensée. Autrement dit, le philosophe essaie de comprendre que la parole humaine, sa signification renvoie à un concept. Qu'on appelle concept, qu'on appelle le verbe intérieur, le verbe mental, c'est ça, la signification profonde. La philosophie moderne reconnaît que tout le problème de la philosophie se ramène à un problème de la signification. C'est intéressant, le reste, d'une certaine manière. Donc, la parole humaine exprime ce que nous pensons, ce que l'homme pense. Donc, au-delà de la parole, il y a le problème de la pensée. Et la parole exprime ce que nous pensons.
Est-ce qu'on peut dire que le structuralisme justement reste simplement à l'étude de la formulation? Elle démonte.
On ne remonte pas la source.
Vous pouvez développer un tout petit peu parce que ça me paraît très important. En fait, c'est pas pour vous lancer là-dedans, mais c'est pour que vous saisissiez bien. J'ai mis à la bibliothèque une étude, ne vous arrêtez pas, hein, une étude des psaumes. Girard, je crois que c'est purement du structuralisme.
Oui. J'ai lu quelques livres d'exégèse du structuralisme. Ça va pas loin.
Donc, ne n'en lisez pas trop, c'est pas la peine, vous perdrez du temps.
Hein. Ah oui.
Mais bien comprendre comment ça fonctionne. À part...
Je vais vous faire un petit schéma au tableau, parce que j'aime bien le tableau. Ça vaut le tour.
Vous pouvez garder le micro, pour entendre le très bien connu.
Réalité expérimentée, le concept là, le philosophe, si vous voulez, mais pas tout court, parce qu'il faut avoir le souci de l'homme de la rue qui pense plus qu'on pense, plus que le philosophe ne pense, ça c'est évident. Donc l'homme, quand il pense, produit au-dedans de lui-même un concept. ce concept a une signification. Qu'est-ce qu'il signifie, la réalité expérimentée? Le concept renvoie directement à la réalité expérimentée. Et ce concept, il est exprimé par la parole, qui a la signification du concept. La parole, par elle-même, n'a pas d'autre signification que ce que je pense. Et ce que je pense me renvoie à la réalité. Mais tout le réalisme de la pensée est là. Et tout le réalisme de la parole est là. Et quand je parle, normalement, j'ai pensé avant de parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle, c'est bon. Mais normalement, la parole peut m'aider à penser. C'est évident. Quelquefois, j'ai des idées nouvelles quand je suis en présence d'un auditoire auquel je parle. Mais normalement, j'ai pensé longuement avant, dans le silence. Et j'exprime ça par la parole. Donc, c'est très important. En grec, je le dis en grec, si vous voulez, ça peut aider. Le tonoïne, la pensée, le tonoïne, la réalité, le tout aïlade, et le tout l'égaine. C'est très juste, c'est déjà chez Parménide. Hein. Les trois. Je crois que ça c'est le triangle de base de toute critique. On peut discuter sur l'ordre, mais c'est le triangle de base. Ce qu'Aristote a précisé par rapport à Parménide. Et ce que saint Thomas a précisé par rapport à Aristote. Mais d'où revient cela? Vous voyez, l'homme expérimente la réalité. Quand on dit que la philosophie réaliste repose sur l'expérience, c'est ça que ça veut dire. Je touche la table. C'est la table. Cette table, progressivement, je l'ai conçue. J'ai un concept par mon appréhension de la table. La table, je l'ai touchée dans un jugement. L'expérience, c'est au niveau du jugement. Et le jugement le plus fondamental, c'est le jugement d'expérience, d'existence, ceci est. Ça, c'est très important. Le tout-elle-même, l'être, ceci est. Dans toute expérience humaine, il y a un jugement d'existence. Ce jugement d'existence implique une certaine appréhension. Et cette appréhension, elle va être fruit d'un concept et d'une certaine signification. Cette signification a des niveaux très différents. La première signification, comme dit saint Thomas, c'est exprimer la quiddité. Vous savez que la quiddité, c'est un petit mot familial que le latin, parce qu'en français ça signifie rien du tout, quiddité. Mais c'est très curieux que même Sartre parle de quiddité. Sachant pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut rien. Il parle de quiddité. La quiddité, c'est tout simplement le mot grec tout-ti-en-en-en. Comme c'est un petit peu. Vous voyez, Aristote aurait fait ça. Pas. Et c'est très important parce que c'est le tout Einheim. Et dans le tout Einheim, le TN. Qu'est-ce que c'est cette réalité qui existe? Alors vous avez en latin quoi? Quid erat SC. Alors on a raccourci. C'est l'intelligence qui, quand elle touche quelque chose, touche ce qu'elle est. Le gosse, la première fois qu'il voit le Comedy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le gosse interroge. C'est l'intelligence en éveil. Et au fond, le philosophe revient toujours à cette interrogation. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Et quand, qu'est-ce que c'est? La maman dit, locomotive. Vous comprenez que locomotive, pour le gosse, ça ne signifie rien. C'est un mot. Et si l'enfant dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? La mère ne sait pas expliquer. Elle dit, locomotive, mais tais-toi. Alors, c'est le mot. C'est le mot. Parce que c'est très important, ça. Vous allez voir que nous restons au mot du structuralisme. C'est, on reste au mot et on ne retrouve plus l'interrogation fondamentale. Et on fait des abrutis. Parce que les mots, les gens qui pensent uniquement en apprenant des mots, ça va pas très loin. Or, c'est très important de comprendre qu'on arrête le développement de l'intelligence quand vous mettez un mot à la place. Et c'est l'interrogation. Alors, l'acuité exprime, dans cette réalité expérimentée, le tienne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de pire dans cette réalité expérimentée? Quelle est sa signification? La signification exprime ça. Donc, premièrement, la curiosité. En dernier lieu, ce qui est l'être, mais pour l'être, parce qu'en vérité, c'est l'être. La signification fondamentale. L'intelligence qui veut connaître ce qui est dans la réalité, qu'est-ce que c'est que l'être, au-delà de la quantité. Mais autrement dit, dans les niveaux de signification, il y a toute une série, constamment. Ça, on y reviendra.
Je
comprends.
Parce que je l'ai
connaissez.
Certains. Et est-ce qu'on pourrait travailler un peu le rapport, là, la parole au concept, et puis le revêtement de la parole. Et comment, dans le structuralisme, on travaille autour du revêtement de la parole et on en fait comment.
Je ne sais pas si on peut développer ça.
Vous avez.
Ce triangle de base, autrement dit, la parole renvoie à la réalité par le concept. C'est le théologien. Parce qu'au point de vue philosophique, on met le concept. Aristote fait cette analogie que j'aime beaucoup. La parole, c'est pour la communication. C'est la communication. Et il fait l'analogie entre parole et la monnaie. Très belle analogie. Avant que la monnaie existe, on allait au marché, on faisait du troc. Je fais des pommes de terre, vous avez un veau, alors on va essayer de voir quelle est la valeur du veau, quelle est la valeur des pommes de terre, combien de sacs de pommes de terre pour le veau. On s'arrangeait. Tant d'heures de travail, le veau évidemment, moins d'heures de travail, parce que c'est pas le vacher qui a enfanté le veau, tandis que celui qui a semé ses pommes de terre, c'est combien d'heures. La monnaie a été le remplacement de la valeur directe des choses. Puis progressivement, on n'a plus regardé que la monnaie. Aujourd'hui, toutes les spéculations se font sur la monnaie. C'est très curieux. Mais il y a un peu la même chose. La parole remplace le concept, ce que je pense. Puis progressivement, la parole est devenue quelque chose qui n'est plus seulement le support du concept, mais la res.
Son passage. Mais ayez l'analogie entre parole et monnaie. C'est très astucieux, très intéressant. Parce que ça fait comprendre comment, progressivement, la personne disparaît. Il n'y a plus qu'une série de relations. Un jeu de relations. Puisque la communication, c'est pour la communauté. La communauté a besoin de communication. Et une communauté n'existe que dans la mesure où il y a une communication. Une communauté, c'est un tissu de relations. Si les personnes disparaissent, qu'il n'y a plus que la relation, on arrive à cette définition de Merleau-Ponty, l'être un tissu de relations. Tout ça, admirable. C'est le premier Merleau-Ponty. C'est pas le second, c'est le premier. Progressivement, Merleau-Ponty comprendra que ça ne tient pas. Et alors, le second, il est mort à ce moment-là, c'est l'être sauvage. Et l'être sauvage, il va. Donc, la parole va envelopper le concept d'une façon conventionnelle. Pourquoi le mot parole exprime-t-il la parole ? Le concept et la parole. Alors, ça, c'est conventionnel. Dans une autre langue, ce sera autre chose. Ce sera différent. Mais comment se fait-il qu'il y a eu diversité dans le langage ? La Bible nous donne une explication particulière. La tour de Babel qui est admirable. Cette explication, elle va au-dessus de tout, une explication divine. Extraordinaire pour montrer qu'au fond, en dehors de tout ça, il y a l'orgueil. C'est très très curieux. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La parole, c'est l'homme qui l'a fait. C'est l'homme qui l'a fait. C'est une œuvre d'art. Quand on dit conventionnel, c'est une œuvre d'art. La parole, elle peut être poétique. Elle peut être, par le fait même, de plus en plus, l'œuvre de l'homme. On va avoir son langage aujourd'hui. Les philosophes ont leur langage. Terriblement difficile à comprendre. Il faut des choses. Je me souviens, c'était Clavel qui disait le langage de Kant. Il a fallu longtemps pour moi d'entrer dedans. Et c'était nécessaire pour les examens, alors j'entrais à fond dedans. Et j'étais devant un langage très particulier qui n'était plus du tout le langage de l'œuvre de l'art. Je ne sais pas, faisait ce que Kant faisait, je crois qu'il avait deux registres. Il avait son registre de brave homme, puis son registre de professeur. Et quand vous avez peur, parce que vous n'êtes pas très sûr, vous employez des gros mots. N'est-ce pas ? Des gros mots philosophiques, pas des gros mots plan religieux, mais des gros mots philosophiques. Et plus vous employez de gros mots philosophiques, plus vous mettez les... Je me rappelle ça parce qu'à Fribourg, je m'en ai fait l'expérience. Il y avait un jeune Français, vraiment agrégé, merveilleux, qui se lançait et qui venait faire une conférence à Fribourg. Dès le point de départ, j'ai compris qu'il ne comprenait rien à ce qu'il disait. Et il jouait un feu d'artifice, vraiment un feu d'artifice. Alors j'ai noté tous les mots, tous les gros mots qu'il employait. Puis après la conférence, on réunissait les Français pour prendre une tasse, un petit verre de vin, une tasse de thé, peu importe. Puis moi, bon, je voulais pas y aller parce que j'étais furieux. C'était bête qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Alors on m'a obligé d'y aller. J'ai dit, je viens. Je vais faire un scandale. Je ne savais rien. Je ne savais rien. Alors, je me suis tué. Tous les autres ont fait admirable ce sujet. Quand on m'a demandé, j'avais 10 mots à lui demander quelle est sa signification de ces mots. Eh bien, les 10, j'en étais sûr. Ils ne savaient pas ce que ça signifie. Vous voyez, on joue avec des mots. Feu d'artifice. Alors je lui ai dit, vous avez le droit dans les examens d'employer des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Le professeur, l'examinateur n'a qu'à être intelligent. Et vous montrez que vous ne savez pas la signification de ces mots. Vous n'avez pas le droit, quand vous faites une conférence, vous mobilisez les gens. Et vous n'avez pas le droit d'employer des mots dont vous ne connaissez pas la signification. C'est un jeu, malheureusement. Vous moquez du public. Parce que la parole, c'est une communication. Je communique quelque chose que je crois être la vérité. Autrement, vous communiquez du poison. Pas le droit de communiquer du poison. Pas savoir si c'est la vérité. Vous avez le droit de dire je cherche. Mais autrement, vous n'avez pas le droit. Puisque vous mobilisez des intelligences. Vous voyez, cette chose terrible, c'est que dans le langage aujourd'hui, de la plupart des philosophes, il y a une coupure entre la parole et le contrat. Là, c'est fait. Et là, il y a le jeu. C'est un jeu. Exactement, ça a commencé comme ça. Alors, mais...
j'ai connu des professeurs très marqués par ça. Et un, on va appeler ça l'évocation, mais c'est un mot qui appelle un autre mot.
C'est ça.
Une autre chose. Zundel. Il est très en,
à la mode.
En ce moment, à nouveau, parce qu'il avait prêché au Vatican une fois. J'ai bien connu ce milieu-là.
Les indiens,
d'ailleurs,
on disait les indiens et les journistes.
Et j'avais un professeur, Michel Olympiac, c'était un mot après un autre mot. Une espèce d'évocation.
Oui, alors, il y a un aspect conventionnel, donc un aspect artistique, qui fait que le mot est l'œuvre de l'homme. Alors que le concept est naturel, il n'est pas l'œuvre de l'homme. Il est l'œuvre de l'homme, mais dans son intelligence naturelle, qui vient de Dieu. Mais je crois que c'est toute la différence qu'il y a. La réalité, elle vient de Dieu. Mon intelligence, elle vient de Dieu. Mon âme est éveillée par Dieu. Tandis que la parole, c'est l'homme qui l'a faite. Il a fait une première œuvre d'art pour la communication, comme la monnaie, dans un autre plan, dans un plan pratique. C'est l'homme qui l'a fait, avec son effigie. Hein? Avec son effigie. Et la parole a l'effigie humaine. Et on aime ça. On s'en gargarise. Justement. On s'en gargarise des jeux de mots constants. Et bien, progressivement, il y a eu cette séparation. La parole et du concept. Le structuralisme va couper la parole du concept. Et ceci, je dirais, c'est la faute des philosophes eux-mêmes, qui ne pensaient plus. Petit à petit, le concept s'est déçué. Il n'a pas été quelque chose de vivant. On a communiqué une philosophie dont on ne savait plus ce qu'il y a. Je cite toujours cet exemple, parce que chez les dominicains, c'était lorsque un professeur m'enseignait les voies d'accès de saint Thomas en théologie, première année. À la fin du cours, je dis, je n'y comprends rien. J'ai détrompé mon professeur, il dit, expliquez-moi un tout petit peu. Là, il me dit, mais c'est dans saint Thomas. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans saint Thomas. Je vous répète ça d'abord. Oui, on répète des mots. Et on ne sait plus ce que ça veut dire. La scolarité cadente était comme ça. On a répété des mots. On ne savait plus ce que ça voulait dire. Hein?
La logique.
La logique, elle est au niveau de la parole. Elle n'est pas au niveau du concept. Contrairement à ce que dit Maritain. Maritain parle de la logique du concept. Non. La critique est au niveau du concept. Et la logique est au niveau de la proposition et donc du langage. Vous voyez ? On voit la signification des termes. La signification des termes. On voit ce que c'est que l'attribution dans une proposition. Et alors, progressivement, le langage est devenu la res. Simplement.
pas au niveau de la parole, au niveau des mots. Et les discussions philosophiques sont au niveau de la pensée et de la réalité. C'est toujours la réalité qui est en face de nous, donc l'homme. Et c'est au sujet de l'homme qu'on discute. Il y a eu donc cette coupure. Et c'est ce que vous trouvez dans la philosophie de Heidegger. La philosophie de Heidegger, qui est au fond pour beaucoup aujourd'hui, leur pensée. Heidegger qui au fond, ou Hegel, c'est les deux. On a dit que tous les jésuites étaient hegeliens et que tous les dominicains étaient heideggeriens. Parce qu'ils veulent être un peu plus modernes. Alors, parce qu'ils sont, ils ont été fondés avant. Oui, un mot, peut-être. Alors, Heidegger considère que la parole, c'est une œuvre d'art. Il est textuellement une œuvre d'art se comprend par elle-même. On ne doit pas chercher ce que l'artiste a pensé. Il y a du vrai dans une œuvre d'art. Dans un tableau, le tableau, on doit le regarder pour lui-même. Ce que l'artiste a pensé, très bien, très bien, c'est très intéressant. Mais c'est deux choses différentes. Le tableau se tient, tandis que la parole ne se tient pas. Elle se tient en référence au concept. Vous voyez tout de suite, si la parole est uniquement cela, comme une œuvre d'art, Heidegger prend cet exemple du sphinx d'Égypte. La signification profonde du sphinx, si je ne vois pas le contexte religieux dans lequel le sphinx a été, je n'y comprends rien. Alors, à partir de là, on va commencer l'herméneutique. L'herméneutique, c'est expliquer la signification des mots et de l'œuvre d'art à partir du contexte. En disant que c'est la seule signification réelle. Il n'y a plus référence à l'homme qui pense. C'est une œuvre d'art. Donc elle ne s'explique qu'en fonction du contexte. Le sphinx d'Égypte, il est beau, mais sa signification, je ne peux la savoir qu'en regardant le milieu. Vous voyez, alors c'est ça qui est très curieux, c'est que, à la place de l'homme qui pense, je regarde le milieu, tout est sorti là, et tout est là. Je crois que quand vous avez compris ça, vous comprenez comment, aujourd'hui, quand je transpose la parole humaine à la parole divine, c'est du reste plus une analogie, c'est une transposition matérielle. Métaphorique. Et plus du tout, une véritable analogie. Ça en fera tout à l'heure. Le passage de la parole humaine à la façon. Et comment cette conception de la parole humaine ne permet plus d'analogie. Et donc, je suis en face d'une œuvre d'art Isaïe, une œuvre d'art Jean, une œuvre d'art Luc. Ça s'explique en fonction.
On fait une petite pause d'un quart d'heure. Mmh.